Allô, bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien.
Préféré!
Ici Hélène, en compagnie de...
Mélanie!
Pour vous raconter des histoires horribles de façon non professionnelle.
Candide.
C'est
ça, ça veut dire quoi, candide?
Je serais pas la... Genre, je l'ai comme dans ma tête, mais je...
Ça fitait. On n'est pas candide, non? C'est pas genre...
Mais candide, c'est un peu stupide.
Ben...
Ouais, c'est vrai. On t'a plus.
T'as-tu vu ta face quand je faisais le décompte? T'es genre.
Allô?
Allô, excusez.
On est des pros comme d'hab.
Oui.
Toujours à notre affaire. On dit jamais niaiserie.
Non. Mm. On est candide. Laisse-moi donc dire un mot que je connais pas. Bon. J'ai un potin!
Ouais.
Non, on est pas dessus.
Ok.
T'as accès à la place? Attends.
T'étais comme vraiment excitée.
Ben, il est quand même cool. J'ai un potin. C'est vraiment un potin legit.
Okay.
Je vais pas... Je vais cacher des informations parce que la personne, je veux vraiment pas qu'elle soit se reconnaître.
Okay.
C'est quelqu'un qui nous a écrit par courriel. Donc, merci beaucoup. Elle a dit... attendez un petit peu. Elle parle de Paul Bernardo et Carla Molka.
Mm-hmm.
On se rappelle que Carla a offert sa propre petite sœur en cadeau de Noël à son chum dans le but de la violer et de la tuer.
Mm-hmm.
Mettons qu'on fait un résumé rapide de qui est Carla. Elle dit, vous parlez de Carla ayant changé son nom pour Léane Bordelais. En fait, elle a marié le frère de son avocate de prison, Sylvie Bordelais, qui est une avocate maintenant connue en faveur de la réinsertion de criminels. De plus, Carla a purgé sa sentence au grand complet. La cour a ordonné des restrictions suite à de nombreuses pressions du public. Malheureusement, la cour était très limitée dans ses restrictions car Carla a servi sa sentence au complet. Personnellement, je crois que Carla est la mastermind des meurtres. Mm. Je suis persuadée qu'elle est la grande psychopathe du couple.
Mm.
Je suis convaincue de ça aussi. Dit aussi, je sais qu'à la naissance de son premier enfant à Montréal, le personnel soignant l'ont reconnue. Elle a quand même reçu les soins nécessaires, mais sans plus. Madame a osé faire une plainte contre des infirmières chevronnées pour mauvais traitement. Les allégations furent rejetées, mais je trouve ça dégueulasse. Oh. Elle se plaint de mauvais traitement. Il faut vraiment pas être sain d'esprit. C'est quand même capoté, là.
Quand même.
Tu sais, je comprends. Hey. Tu sais, les infirmières, ils ont quand même fait ça.
Oui, ils ont fait leur job, mais pas
parce plus, que tu là, dis, ouais, connaissant son histoire, qu'elle agressait puis tuait des enfants avec son chum...
Mm.
Genre, elle met au monde un enfant, ça a comme pas de sens.
Ouais.
Je tiens à dire aussi que tantôt, je parlais de ce potin à Hélène, puis Hélène, elle me dit, ben là, c'est-tu chien si on mentionne son nouveau nom? Puis j'ai dit, rappelle-toi que cette fille-là a donné sa sœur en cadeau à son chum pour la violer et la tuer. Fait que c'est pas grave si on dit qu'elle s'appelle Léane Bordelais.
Ouais.
C'est vraiment pas grave. Non. Voilà. Fait que merci à la personne de nous avoir écrit. Je garde son anonymat.
Oui.
Voilà. Hélène?
Oui.
Qu'est-ce que tu nous racontes aujourd'hui? Tu dis jamais mon nom.
Non, je dis jamais. Surtout pas Mélanie.
Mais parce que t'as comme pas de surnom, elle.
Ben, non, elle. Ben mon nom de...
Eddie.
Ouais, Eddie.
Ouais, et puis personne qui t'appelle.
Non, au secondaire, on m'appelait Eddie.
Ton handle Instagram, jusqu'à vous l'a pas longtemps, c'était Eddie 3333333.
Genre.
On l'a changé.
Oui. Sophie l'a changé.
Sophie, merci Sophie. Ouais,
mon Instagram personnel, il n'y a rien qui se passe là-dessus. Là.
Non.
Quand il y a quelque chose qui se passe, parce que Sophie me gère, c'est tout.
Ouais.
Merci sinon, Sophie.
Si on vous répond sur Instagram, sachez que c'est moi.
Ouais.
C'est pas Hélène. J'ai arrêté de saigner. J'ai arrêté de signer mon nom. Je t'ai dit sur Instagram, c'est pas majoritairement moi.
Ouais. Des fois moi.
Ouais, des fois tu fais bien ça.
Des fois, oui.
Mais Hélène est Messenger.
Ouais. Ouais, Messenger, c'est moi qui vous réponds d'habitude.
Ouais.
Sachez-le.
Non, cette semaine, j'ai fait un gros.
Ah ouais.
Un gros spree.
Mm.
Puis les courriels aussi.
Ouais, courriel, c'est toi.
Sachez que, tu sais, il y a des courriels que j'ai répondu à genre de début février.
Oh boy.
J'ai répondu cette semaine, je suis désolée. Sachez qu'on répond vraiment à tous les messages qu'on voit. Tu sais, ça existe, ça se peut qu'on en skip sans faire exprès, mais on répond toujours à nos messages, oui. C'est juste que des fois, c'est plus long.
Oui.
Et voilà.
Oui, vous êtes beaucoup à nous écrire. Merci.
Mais oui, c'est tellement le fun. On se donne des go, puis on fait « OK, go, je me prends une heure, puis je réponds à tout le monde. » Mais tu sais, on répond vraiment à tout le monde.
Oui.
Parce que c'est vraiment important.
Oui. T'es-tu prête
On
pour
est
une...
tellement awkward, ça n'a pas de sens. Oui, je suis prête pour ton histoire, Hélène. Qu'est-ce que tu nous racontes?
OK. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire de Jaël Quentin.
Cas irrésolu ou résolu?
Résolu.
Yay!
Alors, les sources, tous les sites de nouvelles québécois, Radio-Canada, Le Devoir, qui avait un dossier assez complet sur le cas. Merci, Le Devoir. TVA Nouvelles et Le Journal de Québec.
Je trouve ça que tu remercies Le Devoir. Comme ouais, mais... si Le Devoir nous écoute. Non, mais... Je tiens à remercier Le Devoir.
Merci, Le Devoir. Non, mais genre, leur article était comme vraiment utile puis comme vraiment détaillé, genre pour retracer les derniers jours. En tout cas, j'étais comme, yes, merci d'avoir fait ce travail pour moi. Que je peux reprendre. Alors, voilà, je voulais. Je tenais
à les nommer. Elle va juste lire l'article du Devoir.
C'est ça, je vous lis l'article. OK, go.
C'est. Ouais. D'habitude, tu nous racontes des épisodes d'un tueur si proche.
Oui, c'est ça, je fais ça souvent aussi. Voilà.
Trêve de plaisanterie.
Oui, parce que là, c'est sérieux.
Ouais. Vas-y.
OK. Alors, je t'amène à Mascouche le 16 janvier 2020.
2020, OK.
Oui, c'est récent.
Récent.
Oui. Monsieur...
Mascouche, c'est la rive nord de Montréal.
Oui, rive nord de Montréal, pour ceux qui ne sont pas du Québec. Ou...
Ben, moi, je ne sais pas où est Mascouche. Jusqu'à récemment, je savais pas c'était où, Mascouche.
J'avoue qu'avant d'habiter à Montréal, je savais pas c'était où, Mascouche.
Ah! Genre, moi, je l'ai su, genre, l'année passée. Ça fait vraiment longtemps que j'habite à Montréal.
En fait, moi, je l'ai su parce qu'à l'université, ma bestie d'université, elle habite à Mascouche. Pour ça.
C'est très intéressant.
Oui, oui.
Cool. On va y arriver, la gueule.
Salut Marie-Luce, si jamais t'écoutes.
Oh! Oui, tabouette.
OK. Mascouche, 16 janvier 2020. Monsieur Gaëtan Quentin habite dans une maison multigénérationnelle avec sa fille, Jaël, son conjoint, Benoît, et leurs 6 enfants. Je sais pas exactement comment a été découpé l'immeuble, mais dans le fond, c'était comme un immeuble multifonction qui avait 2 résidences et 1 commerce. Fait que dans le fond, les deux, chacun avait leur porte. Genre, c'est comme les grands-parents avaient leur...
Indépendant.
Ouais, c'est ça, okay. Indépendant, puis les parents avec les enfants dans l'autre. Cette nuit-là, Gaëtan se fait réveiller à 4 heures du matin par la sonnette d'entrée qui sonne sans arrêt. Ça cogne, ça crie, ça hurle. Ce sont ses petits-enfants en panique qui lui disent que quelque chose de grave est arrivé chez eux. Mmh. Ils disent « Attention, il y a un homme dans la maison ». Gaëtan est tout de suite allé voir ce qui se passe. Il rentre chez sa fille, puis il voit le conjoint de sa fille, Benoît Cardinal, couché à plat ventre sur le sol sans connaissance. Il voit ensuite le corps de sa fille, moitié nu, étendu sur le lit, immobile. Il y a du sang sous sa tête, beaucoup de sang. Il sort immédiatement appeler le 911. Sur le site de TVA Nouvelles, on entend comme un extrait de l'appel du 911. C'est vraiment perturbant. Et en arrière, on t'entend comme des cris à un moment donné. Puis c'est le conjoint Benoît Cardinal qui reprend connaissance puis qui crie en arrière pendant que Gaëtan appelle.
Oh mon Dieu!
Ouais, c'est vraiment perturbant. À 4h12 du matin, les premiers policiers arrivent sur les lieux en ayant comme information qu'il s'agit d'une introduction par effraction. Un des deux policiers, c'est Catherine Harel, qui est vraiment jeune dans le métier. Il y avait comme un article, quoi. À raconter un peu, là, parce que ça l'a vraiment, vraiment marqué comme scène. Tu étais quand même une jeune policière, puis tu rentres une scène de crime horrible comme ça. Là. Et, donc, elle rentre dans la maison, elle aperçoit Benoît Cardinal, face contre terre, torse nu, immobile. Quand elle touche sa jambe, il s'est mis à bouger puis à crier. Ensuite, elle va dans la chambre à coucher et elle découvre le corps inerte de Jaël. Elle était couchée au sol, près de son lit, son visage était tuméfié et enflé. Il y avait une grosse flaque de sang sous sa tête et ses cheveux baignaient dans le sang. Le décès de Jaël est constaté assez rapidement. La cause du décès, c'est les coups qu'elle a reçus à la tête. Benoît, de son côté, lui, semble reprendre connaissance puis est transporté à l'hôpital. Pendant son transport vers l'hôpital, il dit à un des ambulanciers que c'est un arabe qui s'en est pris à sa conjointe. L'ambulancier demande « Comment le savez-vous? » Puis il dit « Par sa posture. Okay. »
Ta posture?
Ouais.
Drôle de... Posture arabe.
Ouais, je ne sais pas c'est quoi une posture arabe.
Qu'est-ce que c'est?
Mais... Plus tard dans la journée, les enquêteurs viennent le voir à l'hôpital, puis là, il leur raconte ce qui s'est passé. Donc, il dit qu'un intrus les a attaqués, puis qu'il y a quand même une description assez détaillée. Donc, ce serait un homme d'environ 6 pieds, 2 pouces, cheveux longs avec une barbe. Il portait un habit Adidas rouge avec une ligne blanche. Et il mentionne aussi qu'un des enfants a vu le suspect. Il raconte avoir entendu la porte du garage s'ouvrir une quinzaine de minutes après s'être couché avec sa conjointe, donc vers 3 heures du matin. Puis, quand il a entendu ça, Jaël, elle aurait dit « C'est qui ça? Il y a quelqu'un? » Et là, il y aurait un intrus qui serait surgi dans la chambre et se serait dirigé vers Jaël pour la frapper à deux reprises. Ensuite, un des enfants aurait ouvert la porte de la chambre, mais Benoît lui aurait dit de partir. Benoît Cardinal, il dit qu'il a frappé l'homme au visage avec sa main droite à deux reprises, puis d'avoir comme senti la barbe. Okay, il savait qu'il avait de la barbe.
Il devait faire noir en
pleine nuit. Ouais. Et ensuite, il s'est fait comme assommer au front avec un objet dur, massif et piquant. Il dit aux enquêteurs que Jaël aurait été à nouveau frappé parce qu'il se souvient d'avoir entendu un bruit à côté d'elle. Le suspect serait ensuite revenu vers Benoît pour lui frapper le nez contre la commode de la chambre et ensuite le pousser contre le mur. Il dit au policier qu'il a perdu connaissance quelques secondes plus tard à la suite d'un coup dans le dos avec quelque chose de dur. Il dit que pendant l'altercation, l'intrus se serait exprimé en arabe.
C'est plus un indice que sa fucking posture, là.
Et lorsqu'il reprend connaissance, Benoît Cardinal mentionne avoir regardé si Joël était correct, mais elle ne bougeait plus. À ce moment-là, il a aussi remarqué que la porte qui donne vers l'extérieur de la chambre était ouverte. Puis après ça, il aurait comme reperdu connaissance. Les policiers prennent sa déposition, mais seulement quelques heures plus tard, la même journée, revirement de situation, la police considère maintenant Benoît comme le principal suspect du meurtre. Et que le tout serait prémédité.
Wow! OK.
Yes, tu l'avais pas vu venir.
Vraiment pas?
C'était mon punch.
C'est-à-dire qu'il s'est fessé lui-même dans le front avec un objet ou que c'est son complice. Là. En tout cas, vas-y.
Donc, je te parle de Jaël et Benoît. Jaël avait 33 ans au moment de son décès. Elle était mère de 6 enfants. 6 enfants. J'ai pas trouvé l'âge des enfants. Il y a vraiment pas beaucoup de détails sur eux, puis c'est pas correct. Mm-hmm. Laissons-les tranquilles, les pauvres. Mais tu sais, comme les photos que j'ai vues d'elle, elle avait l'air d'avoir comme un bébé avec elle. Là. Fait que tu sais, je pense qu'elle avait comme. Tu sais, le dernier devait être quand même très, très jeune, très récent. J'ai malheureusement vraiment pas trouvé d'infos comme sur Jaël, genre c'est qui qu'elle était, c'est qu'est-ce qu'elle aimait faire. Les seuls petits bribes de comme sa personnalité que j'ai vu, c'est dans les témoignages de ses amis puis de sa famille. Il y en a un que je trouvais vraiment cute qu'il disait Jaël était un modèle de femme, un modèle de mère, une superwoman.
Oh.
Ouais. Je trouve ça comme plate de pas avoir trouvé d'autre chose. Selon ce que j'ai vu lu, elle devait être en relation avec Benoît Cardinal depuis des années parce que ça semble être le père de tous les enfants. Tu sais, j'ai rien vu qui disait que c'était pas le père de tous les enfants, là. Donc, je pense que ça faisait plusieurs années qu'ils étaient ensemble. La relation entre elle et Benoît semblait très normale et stable. Selon Gaétan, qui vivait comme juste à côté d'eux, comme quasiment avec eux, il y avait absolument aucun indice qui pouvait indiquer qu'il y avait quoi que ce soit qui se préparait.
Ou que ça allait mal dans le couple.
Ça allait mal. Il dit qu'il n'a jamais vu Benoît être violent. Il dit, dans l'entrevue, je trouve ça cool, il dit, tu sais, ses petits-enfants, il leur racontait tout, là. Il dit, tu sais, si maman fait un pet, là, on va être au courant.
Il était vraiment, vraiment proche.
Oui, c'est ça, tu sais. C'est des petits-enfants, là, en vraiment bas âge. Fait que, tu sais, tout ce qui se passe en maison avec maman et papa, ils vont leur dire. Fait que, tu sais, il avait vraiment jamais observé de violence ou, tu sais, quoi que ce soit. Par contre, on sait que le couple était quand même assez serré financièrement. Ça, c'était quand même un stress dans le couple.
Je pense que c'était genre la cause de stress numéro un dans les couples, l'argent.
Ouais, quand même.
Puis les rénaux, puis les enfants.
Ouais.
Je pense que c'est
top 3.
Les top 3. Je pense que c'est ça.
Puis souvent, ça vient ensemble. Tu sais, quand tu fais des rénaux, t'es serré dans la main.
Tes enfants te tapent ses nerfs.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Donc, le, ce qui mène à l'événement. Donc, Benoît Cardinal, 33 ans, lui aussi, il était éducateur spécialisé au centre de jeunesse de Laval. Donc, il travaillait avec des adolescents. Le 26 décembre 2019, donc quelques semaines avant le meurtre, Benoît Cardinal est avisé verbalement qu'il est suspendu de son poste d'éducateur spécialisé au centre de jeunesse de Laval. Et c'est parce que la mère d'une adolescente du centre s'est plainte que sa fille avait reçu des textos à caractère sexuel de la part de Benoît.
Hein? Mmh.
Après l'annonce de sa suspension, Benoît va souper avec des collègues, puis ses collègues vont essayer de lui remonter le moral. Benoît il est en panique, il est désespéré, il tient des propos inquiétants. Il dit à un de ses collègues, « Ça va mal finir, je suis au bout du rouleau. »
OK.
Puis il dit rien à Jaël.
Oh, il dit pas qu'il a été suspendu?
Non.
Oh, shit.
Le 28 décembre, donc 2 jours plus tard, Jaël, elle apprend par quelqu'un d'autre que Benoît a été suspendu. Fait que là, ce qu'on
mais
a...
comment tu peux cacher?
Ben oui, là.
Genre, tu pars le matin au travail quand même, puis tu t'en vas au Tim Hortons? Genre, qu'est-ce que tu fais? Ah, ça me fait capoter.
En tout cas, c'était la semaine de Noël.
Ouais, peut-être c'était Noël.
Peut-être qu'il était en congé, je sais pas. Là, ce qu'on a beaucoup comme information des discussions entre eux, c'est par texto, là, qui a été retracé par après, là. Donc, par texto, elle le questionne, puis lui, il nie complètement avoir été sanctionné. Fait qu'elle demande « T'es dans marde à cause de quoi? » Puis il dit « Aïe, aïe, là, arrête, je sais rien. T'as parlé de quoi, esti? Je suis pas au courant de rien. » C'est comme vraiment...
Elle dit « J'ai entendu que t'as été suspendu, puis non. »
Ouais.
OK. Il est de plus en plus louche, ton Benoît?
Ouais.
Hélène a un gros sourire d'en face.
Plus tard, le même jour, donc encore le 28, là, Benoît reçoit une lettre officielle qui confirme sa suspension et qu'il informe qu'une enquête administrative est en cours pour faire la lumière sur les allégations.
Parce qu'en même temps, des textos, je veux dire, c'est ton numéro de téléphone puis c'est toi qui les écris. Comment tu veux nier?
Comment tu veux nier, oui.
C'est ton sel.
Il est dans ma...
je veux dire...
Fait que là, après ça, une fois qu'il a eu la lettre, là, il dit finalement à Jaël qu'il a été suspendu. Il dit « J'aurais dû te mettre au courant jeudi ou hier, mais... » Ah non, il dit « J'aurais dû être mis au courant jeudi ou hier, mais ils n'ont pas eu le temps, ça a l'air. » Fait que c'est comme... Il dit comme s'il venait de l'apprendre, dans le fond, par la lettre. Il dit « Aïe, je capote, je comprends rien. » Puis elle a dit... Il répond « Tu le savais déjà.
» Ben, elle le connaît aussi.
Ben, c'est ça, là, à un moment donné. Le lendemain, le 29 décembre, Benoît Cardinal consulte des pages Internet intitulées « Comment tuer un homme sans laisser de traces? » et « Top 10 des façons insolites de tuer quelqu'un. »
Colique!
Ça, c'est des erreurs de débutants.
De très, très débutants.
Vraiment.
Tabarnouche.
En fait, dans « Comment tuer un homme sans laisser de traces », clairement, dans les instructions, il y a « Ne pas faire des recherches Internet sur ton ordinateur personnel. » C'est sûr que oui.
Tabarnouche. Même pas en mode incognito, le gars, là. Il est genre...
Ouais, je
sais. N'importe quoi. Ouais.
Et il fait aussi des recherches portant sur le suicide.
OK.
Donc, il est pas bon. Le 30 décembre, la suspension de Benoît continue à créer des tensions dans le couple, qui est déjà stressé financièrement. Puis là, je me dis, je sais pas exactement, mais je me dis si elle avait un enfant encore très jeune, probablement qu'elle, elle travaillait pas puis qu'elle était en congé maternité. Puis là, lui, s'il perd sa job, c'est stressant, là.
Avec 6 enfants.
Avec 6 enfants, ouais. Ben, si elle a eu 6 enfants quand même rapprochés aussi, elle a pas dû beaucoup travailler dans les dernières années. Là, fait que c'était sûrement plus de lui qui dépendait financièrement, là, de sa job. Là. Fait que elle texte « Ça me rend folle ton affaire, j'ai vraiment peur. » Il lui dit « Ça me rend fou moi aussi, sérieux. » Elle a dit, si tu pars ta job, on ne pourra pas rejoindre les deux bouts. Il dit, je sais. Le 1er janvier, là, les collègues de Benoît, ils s'inquiètent, là. Et il lui envoie des textos pour voir comment il va. Puis lui, il répond à un de ses collègues qu'il a quitté pour l'Ontario puis qu'il ne reviendra pas au Québec.
Ce qui est faux.
Ce qui est faux. Alors qu'il est dans un chalet avec sa famille.
OK. Ouais. Au Québec.
Ouais. On commence à avoir beaucoup de mensonges dans son affaire. Il y a une des collègues de Benoît qui craint qu'il mette fin à ses jours. Là, à ce moment-là, elle a dit comme il se recroquevillait vraiment sur lui-même. Il était comme de plus en plus inquiétant. Le 6 janvier, Benoît Cardinal consulte plusieurs sites Internet pour obtenir des prêts en ligne.
Mm-hmm.
Et il fait à nouveau des recherches sur le suicide et la détresse psychologique. Le 7 janvier, il demande un rendez-vous à un psychologue. J'imagine que c'est un psychologue qu'il connaissait déjà, parce qu'il écrit « As-tu des dispos plus proches parce que j'en ai vraiment besoin? »
OK.
Par texto.
Fait qu'il a quand même recherché de l'aide un peu. Ouais. De l'aide financière aussi, de l'aide psychologique.
Psychologique, oui. Le 8 janvier, il consulte... Encore une erreur de débutant. Il consulte le site « Comment réaliser le crime parfait? »
Cocombe. Vraiment. Ben, en même temps, tant mieux pour nous. Mais il a quand même réussi à faire le truc.
Juste plus facile à prouver. Ouais. Le 9 janvier, Jaël envoie plusieurs messages de soutien à son conjoint qui lui dit... Il lui a toujours pas dit pourquoi il avait été suspendu, là. Ce qui est quand même grave, là. Fait qu'elle a dit, t'as rien fait de mal, on peut pas rien te reprocher. Je pense à toi, tiens-moi au courant lorsque tu sais de quoi il s'agit.
OK, lui, il a dit, j'ai été suspendu, mais c'est pas de ma faute, je sais même pas pourquoi. OK.
Ouais. Ouch. Le jour même, il y a une adolescente de 16 ans avec qui Benoît entretient une relation intime qui fugue du centre de jeunesse.
C'est pas une surprise, on s'entend.
Non. Elle contacte Benoît Cardinal qui va la rejoindre dans un stationnement de Montréal, puis il l'emmène chez lui à Mascouche. Lorsque Jaël est sur le point de rentrer du travail... Ah, tu vois, elle est retournée au travail. Ah, j'avais pas noté ce détail. Ah, elle travaillait aussi. Fait que juste avant qu'elle revienne, il propose à l'adolescente qu'elle passe la nuit dans sa voiture. Parce qu'il voulait comme la cacher.
Ben oui, mais amène-la pas chez vous. Mais en même temps, il n'y a pas d'argent pour y payer, genre...
Ben, en fait, là, ce qu'il fait, là, elle passe la nuit dans sa voiture. Puis la même journée, il y a des policiers qui contactent Benoît Cardinal pour savoir si l'adolescente est en fugue, l'a contacté.
On est en janvier aussi, là.
Ouais, ouais, il fait froid, là.
Fait pas chaud.
Non, c'est ça, elle peut pas aller dormir dans un parc, là.
Pauvre-t-il.
Il leur ment en disant qu'il sait pas où elle se trouve, alors qu'elle est avec lui. Puis plus tard, Jaël, elle questionne sur pourquoi les policiers sont venus te voir.
Mm-hmm.
Puis là, OK, c'est bizarre qu'il soupçonne d'avoir parlé à l'ado à l'extérieur du travail, quand même. Et donc, là, après qu'elle a passé la nuit en voiture, le lendemain, le 10 janvier, Benoît, il conduit l'adolescente dans un motel de Mascouche où il va comme lui payer 3 nuits.
OK.
Il paye la chambre en argent comptant.
Cash.
Plus tard dans
la journée... Il devait avoir lu ça sur un site. Toujours tout payé comptant.
Oui, pour ne pas laisser de traces. Plus tard dans la journée, Benoît Cardinal est rencontré par les ressources humaines du CISSS de Laval. Donc, les conclusions de l'enquête administrative lui sont communiquées. Et ça dit que plusieurs adolescentes disent que l'éducateur entretient une grande proximité avec elles et qu'il tient des propos à connotation sexuelle.
Plusieurs.
Plusieurs. Parmi les allégations, une adolescente soutient que Benoît Cardinal lui a expliqué comment ne pas s'étouffer en faisant une fellation.
Small talk avec des adolescentes.
Dans un texto que Benoît Cardinal a écrit à une adolescente, « Je t'aime, ma pitoune.
»
Il nie majoritairement les faits.
Mm-hmm.
La direction lui annonce qu'il est renvoyé, mais qu'il peut choisir de démissionner plutôt que de se faire renvoyer. Comme ça paraît mieux si après ça, il veut se retrouver un autre job. Donc, il décide de remettre sa démission. Et il apprend aussi qu'il va être rencontré par des policiers. Et son employeur lui offre de consulter un psychologue. ce qu'il fait apparemment. Donc, il aurait consulté un psychologue. Plus tard dans la journée, Benoît Cardinal écrit à Jaël, « J'ai plus de job, je capote esti. » Jaël le rassure, a dit, « On va trouver autre chose, tu peux rien changer, la vie continue, on va déménager au BC, on va acheter un vignoble. »
Sure.
Ce qui est très cute.
Sure.
Après sa rencontre avec les ressources humaines, Benoît, il discute avec une collègue, puis il lui dit, « J'ai un côté sombre qui vient me hanter. Soit je vais à l'hôpital, soit c'est no way back. »
Hein?
Il dit aussi à sa collègue qu'il ne reçoit pas de soutien à la maison. Il dit, « Jaël est accusatrice, elle est stressée et elle est en tabarnak. »
Avec raison.
Ouais, avec raison. Ben, c'est, hey, imagine, c'est même
elle
pas...
Elle même pas au courant que son chum, c'est un pédophile.
Non, c'est ça.
Pauvre type.
Dans les jours qui suivent, il reçoit plusieurs appels d'une agence de recouvrement. Il communique aussi plusieurs fois avec l'adolescente qui est cachée au motel. Et il lui dit, entre autres, qu'il va tuer sa conjointe.
Ah!
Il lui dit, « Elle m'a tellement fait souffrir, je vais la faire souffrir moi aussi. » Alors, il explique qu'il y a 3 plans pour tuer Jaël. Plan 1, simuler un suicide.
Sérieux.
Plan 2, la pousser dans les escaliers. 3, faire croire à une violation de... Une violation de domicile dans laquelle il aurait aussi été blessé.
Okay.
Il a clairement pris plan 3. Ouais. Et il lui dit, ils ne me pogneront pas. Ça n'a même pas duré une journée, son
affaire. Ouais, c'est
ça. L'adolescente, évidemment, elle a témoigné au procès après. Là. C'est pour ça qu'on a plein... On sait tout qu'est-ce qu'il a dit. Là. Elle dit, il disait tout le temps qu'il n'était pas bien avec sa femme. Il disait, je suis vraiment tannée d'elle, elle ne fait rien à la maison.
À part s'occuper de 600 enfants et travailler.
Ouais, voilà. L'historique de l'ordinateur révèle aussi qu'il a fait de nombreuses recherches au sujet de la détresse psychologique. Jusqu'à 5 jours avant le meurtre, il aurait cherché à plusieurs reprises des lignes d'aide en cas de crise, une aide psychologique en ligne ou encore écoute et aide privée.
Il a quand même essayé, tu sais.
Ben, il a cherché... Mais il n'a pas, appelé, finalement.
Okay.
Le 15 janvier, une collègue discute avec Benoît. Il nie toutes les allégations liées au ce qui est pour les agressions envers les jeunes. Sa collègue lui demande si sa conjointe est au courant de la situation. Et il lui répond, « Jaël, c'est une folle. »
OK.
Ouais. Le 16 janvier, donc la nuit du meurtre, Benoît Cardinal bouscule Jaël dans les escaliers de leur résidence.
OK, il a essayé le plan 2.
Il a essayé le plan 2, puis là, ça n'a pas marché. Ouais. Fait qu'ils se sont engueulés. Puis là, il crie après, « Voyons, t'aurais pu me tuer. » Puis lui, il fait comme, « Non, c'était un accident.
Mm-hmm. »
mm-hmm. Et la même nuit, donc, quand le plan 2 n'a pas marché, vers 3h du matin, là, les enfants entendent Jaël Quentin hurler. Et elle est battue à mort dans sa chambre à coucher.
Mais là, c'est qui le gars? Je veux tout savoir.
Ouais. Fait que là, OK, je te parle du cas des accusations d'agression sexuelle sur mineurs.
OK.
Et de la relation avec la fugueuse. Alors, la relation avec l'adolescente, là, qui était cachée dans le motel de Mascouche, ben, elle avait 16 ans lorsqu'il a commencé à se développer de quoi entre Benoît et elle. Alors, elle raconte que tout commence en octobre 2019, quand Benoît Cardinal propose à l'adolescente de l'accompagner faire des courses pour le centre de jeunesse pour aller au Bulk Barn. Une épicerie en vrac, là, qui a plein de bonbons.
Mm-hmm.
Donc, l'éducateur a avisé les autres intervenants de cette sortie. C'était dans les règles. Puis là, l'adolescente a dit, ben finalement, ses intentions, c'était pas ça. Alors, plus tôt, ils se sont retrouvés dans le stationnement près du métro quartier, dans la voiture de Benoît, et il a embrassé l'adolescente. Puis, il a fait basculer... il l'a envoyé à l'arrière du véhicule, au fond, où les sièges avaient été baissés et des couvertures installées. Genre, c'était déjà tout planifié, là. Il avait prévu son coup.
Wow!
Probablement pas la première fois qu'il faisait ça.
Ouais, c'est ça.
Elle dit que il y avait même acheté à l'avance les provisions au Bulk Barn pour qu'il puisse les ramener au centre jeunesse, puis comme que son excuse.
Ok, marche. C'était extrêmement prémédité.
Vraiment.
Ben prémédité, c'est pas un meurtre.
Ouais. Ben ça.
Tu peux te dire que c'était prémédité sur une situation.
Prémédité d'agresser sexuellement l'adolescente. Ouais. Ouais. Donc après ça, il lui demande vraiment de garder le silence, de pas parler de ça. Il dit je veux juste pas que t'en parles, je veux pas perdre ma job, je veux pas te perdre toi.
Ah, oh, la bullshit. Mm-hmm.
Fait que. Elle dit que par la suite, ils ont eu d'autres relations sexuelles, puis qu'elle a fini par développer des sentiments pour lui. Puis que tout, ça a tout eu lieu au centre jeunesse, dans la chambre à coucher de l'adolescente, dans le bureau des éducateurs, dans le vestiaire. Elle aussi dit que Benoît allait régulièrement la réveiller le matin en lui faisant des attouchements sexuels. Il rentrait dans la chambre, il me touchait, puis après ça, ben, il ressortait comme si de rien n'était.
Aïe, aïe. Les pauvres petites filles, ça me fait capoter.
Tu sais, ce qu'elle dit, c'est qu'elle était consentante. Mais bon, en vertu du code criminel, c'est ça. En vertu du code criminel, une personne mineure ne peut consentir à des activités sexuelles avec un partenaire qui est en situation de confiance et d'autorité.
Mm-hmm.
Voilà. Et il y aurait 8 autres adolescentes âgées entre 13 et 17 ans du centre jeunesse qui ont rapporté aux policiers avoir été victimes de comportements inappropriés de la part de Benoît Cardinal.
C'est un bullshitter professionnel. Ouais. Il savait quoi leur dire, puis... Il est formé pour savoir comment...
Tu sais, des adolescents en centre jeunesse, là, c'est quand même...
Fragile.
C'est très fragile, là, puis démunis, puis... Ouais.
Puis tu sais, leur seule figure d'autorité qui peuvent faire confiance, ouais. C'est eux.
Ouais.
Puis lui, il a juste pris
avantage de tout ça. Vraiment. Ouais. C'est pas tant une belle personne.
Un enfoiré de première, j'allais
oui,
dire.
Oui, même, qu'on pourrait dire ça. Il y a finalement pas d'accusations qui ont été portées dans le dossier des agressions sexuelles à cause qu'il a été accusé du meurtre premier de sa conjointe comme pas longtemps après. Fait que justement, ça comme se sont rabattus là-dessus. Alors, je t'amène au procès. Donc, ben, la défense continue à dire que c'est une entrée par effraction et que ce serait une troisième personne qui aurait tué Jaël.
Hein?
Ouais, c'était ça son histoire au début, là.
C'est... Ouais?
Ouais. Ouais, il continue à dire ça, malgré dire ça. Toutes les preuves contre lui, là. Toutes okay. ses recherches.
Sure.
Ses recherches Internet.
Ben oui.
Ses plans qu'il a expliqué, à l'adolescente, tu sais. Benoît dit, entre autres, qu'il y a une tablette électronique qui a été volée la nuit des événements, qu'il a remarqué la disparition de l'appareil quand il a repris connaissance, parce que c'était branché à côté du lit, plus tôt dans la soirée. Ben l'adolescente de 16 ans a dit que en fait, il lui avait offert la tablette quelques jours avant. OK. Ah.
Ça, j'allais dire, il s'est comme gâté en même temps. Il s'est dit, tant qu'à tuer ma femme, je vais voler quelques affaires puis faire un peu de cash. Ou
faire plaisir.
À... Wow!
Donc, la couronne présente des preuves qui contredisent la thèse d'une troisième personne. Entre autres, il y avait le sang sur les vêtements qui démontrait qu'il était vraiment à proximité de la victime quand elle a été frappée. Il y avait des blessures compromettantes sur les mains aussi. Là, ça parle d'ADN, mais je suis comme pas sûre. Il était où l'ADN, puis qu'est-ce que ça prouve, là? En tout cas, c'était mentionné dans les articles, mais
je suis
pas sûre. Sinon, il n'y a aucune trace d'entrée par effraction, aucun bris de porte d'entrée, de cadre, de poignée de fenêtre. Aucune trace qui est trouvée dans la neige derrière la maison. Dans la chambre principale, les meubles n'avaient pas été déplacés. En contre-interrogatoire, là, la défense, elle insiste sur le fait que les premiers répondants, ils n'étaient pas souciés de protéger la scène de crime. Vous n'avez pas regardé où vous mettiez les pieds. Mais là, les policiers étaient comme, nous, notre préoccupation, c'était de sauver les gens qui étaient là. Et aussi, une preuve pour la défense, c'est que, en contre-interrogatoire, la policière a indiqué qu'il y avait une empreinte digitale qui avait été relevée sur la porte de la chambre et qui ne concordait pas avec celle de Benoît ou de Jaël. Donc, une autre empreinte qu'on ne sait pas c'est qui. Mais bon, ça se peut
qu'il y ait. Mais ça peut être tellement de gens.
Ben, c'est ça. Ça peut dater d'il y a 10 mois quand ouais. quelqu'un était passé chez
peut-être
eux.
Peut-être un ami, ça
c'est
peut
C'est ça. T'sais. Fait qu'on sait
pas. Tout le monde qui est dans le système.
Non. Aussi en cours, il y a le témoignage de certains des enfants. C'est oh. tellement triste, là. T'sais, qui étaient dans la maison quand leur mère a été brutalement assassinée. Donc, un des enfants qui dit avoir vu Jaël se faire battre la nuit du meurtre.
Par leur père?
Ben, c'est ça. Ils l'ont pas dans vu. Fond, l'enfant il dit j'ai entendu au secours à l'aide et entendu des gros booms. Puis là, c'est ça. C'est que cet enfant-là, au début, il avait dit que dans l'obscurité, il avait vu un homme dans la trentaine avec des cheveux longs attachés qui avait l'air méchant. Mais sur le coup, ils n'ont pas pensé que c'était leur. Que c'était papa.
Parce que cette description-là correspond à Benoît.
Exactement, à Benoît Cardinal. Il y a une couette et okay. des cheveux longs. Là. Ouais.
Mais il voulait pas que ce. Il... Non, ben, tu penses juste pas que c'est papa. Là. Papa peut pas faire de mal à maman.
Non, c'est ça, tu sais.
Dans leur tête.
Écoute, l'enfant, ce témoignage-là devait être.
Oh mon Dieu, qu'il avait dit ça.
Il massacrait Jaël. Elle était en petit bonhomme et elle se faisait massacrer. Je l'ai vu se faire étrangler.
Ah! Ouais. Il parle de sa mère. Elle ou elle, je sais pas, mais.
Ouais, on sait pas. Donc, dans le fond, ben, à l'époque, l'enfant, comme dans sa première déclaration au policier, quand ça avait été enregistré, il avait dit qu'il avait vu 3 personnes. Donc, Benoît, okay. Jaël, puis le meurtrier. Mais après ça, tu sais, l'enfant, là, au moment du procès, il disait que s'il savait pas trop ce qu'il avait vu, puis que, qu'il y avait personne d'autre sur les lieux, dans le fond. Benoît Cardinal ne témoignera pas à son procès.
C'est sûr. La contre-interrogatoire a été sanglant.
Alors, le verdict. Benoît Cardinal est trouvé coupable du meurtre au premier degré bon. Et condamné à prison à vie. Bon. 25 ans, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Pendant le procès... Ah oui, c'est ça. Ben, la thèse de la couronne qui a été crue, ben, c'est que c'était entre autres pour le gain financier qui aurait tué Jaël, dans le fond, parce qu'elle avait une assurance vie, puis qu'il était vraiment dans la merde.
Oh ça. My God. Bonne raison. Bonne raison.
Fait qu'il fait appel au verdict, et finalement, dans la cour d'appel en 2021, il est condamné une nouvelle fois à la prison à vie.
Mais il fait appel sur quoi?
Oh, je sais plus, c'était vraiment pas des bonnes raisons, là, mais...
C'est sûr que non. Il y a bon, tellement
ça a
de preuves.
Ça a quand même passé... Pour qu'il y ait un appel, là.
Ouais, mais ils ont tellement de preuves.
C'est ça. C'est comment tu penses t'en tirer, là?
Des fois, c'est genre un avocat ou quelqu'un qui a, genre, fait une erreur dans une paperasse qui lui permet de faire un appel. Mais le résultat va quand même être le même.
C'est ça.
Des ben trop de preuves.
Ben trop coupables. Alors maintenant, ben, ce sont les parents de Jaël qui s'occupent des 6 enfants, avec l'aide des autres membres de la famille. Apparemment que c'est vraiment une famille tissée serrée. Puis, apparemment que les enfants se portent bien.
OK.
Guétin, il se demande vraiment comment, pourquoi son gendre, qui pensait si bien connaître, a pu faire ça.
Ben, c'est une détresse mentale qui te fait faire des affaires par rapport.
C'est ça. Tu sais, je pense que c'est vraiment un cas de détresse psychologique. Tu sais, Benoît, il était au fond du baril. Il a perdu son emploi. Il avait des dettes. Il allait se faire enquêter pour agression sexuelle sur mineur.
Tu sais, il avait déjà un côté un peu twisted aussi, vu qu'il était pédophile déjà. Le reste a juste déclenché c'est le pire. Ça.
Mais tu sais, on voit qu'il a pensé à aller chercher de l'aide, mais plutôt que de passer à l'action de ce côté-là, il a passé à l'action du mauvais côté. T'sais.
Ça aurait pu se terminer d'une toute autre manière. Il a juste choisi la pire.
Vraiment, vraiment.
Priver les enfants
de leur mère. De leur mère et de leur père, parce que lui, il est en prison. Ouais, c'est vrai.
Puis du traumatisme de, pour celui qui l'a vu. De, oui. Oh, ça n'a pas ça.
Sinon, dans un truc positif, il y a un professeur de l'école de Laval où travaillait Jaël qui a décidé de parler comme des relations toxiques puis violentes à ses élèves, justement pour pour pas que ça se répète. Fait que en utilisant le je ne connaissais pas le violentomètre. Donc
un violentomètre. Oui,
c'est comme une grille, genre une échelle pour voir si t'es dans une relation toxique, genre.
OK.
Fait que des comportements qui sont corrects, des comportements qui sont puis des comportements qui sont vraiment pas corrects. Fait que lui comme il présente ça à ses élèves,
OK.
Puis, fait que c'est cool. Bravo. Je ne connaissais pas le violentomètre.
C'est vrai, parce que, tu sais, pour un adolescent, t'as pas tant d'expérience, t'as pas tant de vécu, puis, tu sais,
ouais.
Surtout, ben, tu sais, je parle par expérience personnelle, t'sais. Mais, tu sais, comme une jeune adolescente, tu sais, moi, tout ce que je voulais, c'était tomber en amour, mm-hmm. puis tous les garçons, je les trouvais beaux, puis je voulais tous les aimer, puis je voulais me marier avec eux, fait que, tu sais, t'es tellement assujetti à une vulnérabilité, puis tu crois vraiment ce qu'on dit.
Puis t'as pas de comparatif à qu'est-ce qui est une relation normale, qu'est-ce que
Ça n'a aucun sens. Fait que c'est vraiment le violentomètre, c'est une très très bonne chose.
Vraiment.
Tu fais comme ah, tu vois, ça je savais pas. Que ça c'est un red flag, tu sais.
Ouais. Non, c'est vraiment nice.
Wow.
Sinon, d'un point de vue un peu plus fâchant, bon, même si bon, le cas que je viens de raconter, c'est tu sais, il y avait pas trop d'indices, tu sais, de violence conjugale avant en fait là, tu sais, il y avait pas de violence claire dans le couple.
Mm-hmm.
Ben, après ça, violence psychologique, peut-être un peu manipulation. On n'a pas assez de détails de leur couple pour le savoir. Mais bon, ça a quand même fini en féminicide. C'est ça. Puis, bon, c'est pas la première fois que je fais un cas de féminicide. Il manque énormément de places d'hébergement pour femmes en situation de violence conjugale au Québec. En ce moment, les organismes doivent rejeter environ 10 femmes par semaine par manque de place.
Oh my God!
C'est fou, là. Fait qu'il demande au gouvernement du Québec de débloquer des fonds spéciaux pour la construction de nouvelles maisons d'hébergement. Ce que le gouvernement de François Legault avait promis en 2021, en pleine vague de féminicides, là, comme l'année où il y en avait eu tellement là, pendant la pandémie. Et là, le budget 2024 du Québec est sorti cette semaine.
Ouais.
On est la semaine mi-mars. Là. Et ben, l'argent promis n'y est pas. Et la réponse de la ministre de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, c'est que le coût par porte est trop élevé pour les projets soumis. Fait que la question, ben OK, ça vaut combien la vie d'une femme, Madame Duranceau? Et pour finir sur une note positive et très touchante, je voudrais lire le message d'une auditrice. En fait, c'est quand j'ai lu son message, j'ai fait comme « OK, ça faisait un bout, je voulais faire un nouveau code féminicide pour parler de ça. » Alors, quand j'ai lu son message, je me suis dit « OK, je le fais. » Fait qu'elle a dit qu'on pouvait dire son nom. Alors, témoignage d'Émilie. Qui dit « Allô les filles, je vous écoute depuis votre tout début et vous êtes toujours aussi pétillantes et pleines de vie qu'au début. Ne lâchez pas ce beau projet. »
Oh, merci Émilie.
Elle dit « Je viens de réécouter l'épisode numéro 16 sur Josiane Arquin. » C'était un cas de féminicide. Et ça m'a fait rappeler qu'au moment où j'écoutais l'épisode la première fois en 2021, j'étais dans une relation avec violence conjugale. Et je me souviens avoir fait quelques liens entre ma propre relation et celle des autres qui vivaient la même chose que moi. Hélène, tu dis à la fin de l'épisode que tu aimerais que ça aide au moins une personne. Eh bien, je te confirme que tu m'as probablement sauvé la vie.
Hein?
Après avoir écouté l'épisode, j'ai réalisé qu'il fallait que je prenne une décision pour moi avant de finir comme ces pauvres femmes qui ont réalisé ça trop tard. Je suis donc partie avec mon chien dans un nouvel appartement dont mon ex ne connaissait ni l'adresse ni même la ville, et ça a été la plus belle décision de ma vie. En réécoutant l'épisode, j'ai fondu en larmes. Je venais de me souvenir ce que j'avais traversé et de tout le chemin que j'avais parcouru depuis. Aujourd'hui, je suis toujours dans l'appartement où je me suis sauvée avec mon fidèle compagnon. Et deux nouveaux membres se sont rajoutés à la famille durant l'année 2023. Un petit chat gris du nom de Charlie, qui a eu un an en janvier 2024, et un nouveau copain qui m'a apporté tout ce dont j'avais besoin depuis plusieurs années. Une relation 100% saine, avec de la communication, de l'amour à l'infini, et qui prend soin de moi et de mes animaux. Donc, chère femme, ça c'est elle qui parle, donc, chère femme qui vivez avec de la violence conjugale et hésitez à repartir à zéro ailleurs, sachez que c'est possible, que vous ne vivrez jamais pire que ce que vous vivez en ce moment et que vous méritez de vous faire traiter de la bonne façon. Le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire, c'est juste de partir. Même si vous êtes dans le trou financièrement comme j'étais, vous n'allez jamais autant vivre l'enfer que celui que vous vivez présentement. Suffit juste de s'organiser, se donner le temps et tout se fera tout seul. Par la suite, il faut consulter. C'est très important. Et je ne parle pas nécessairement avec un professionnel, mais trouvez-vous quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui ne connaît pas votre relation, mais qui vous connaît bien, pour vous rappeler de la personne que vous étiez avant votre relation. C'est super important. Mais vous allez devoir faire un gros ménage dans votre tête. Je vous assure que ce n'est pas aussi épeurant que vous le croyez. Bref, merci Hélène pour avoir raconté cette histoire. Ça m'aurait peut-être pris plus de temps à réaliser tout ça, et mon ex aurait peut-être eu la chance de faire ce que les conjoints des femmes que tu nommes à la fin de l'épisode ont fait. Votre travail sert à bien plus que le divertissement. Il sert aussi à la prévention. C'est bon? Voilà.
J'ai...
Ouais, on est tournés là, mon Dieu. Merci vraiment, Émilie.
Voyons donc.
C'est tellement beau ce qu'elle a écrit, là.
Je suis tellement fière d'elle.
Tellement.
Crème qu'elle doit être fière d'elle. Waouh.
Vraiment. Waouh. Ouais.
C'est un peu là, on pleure les deux. Ben voyons donc.
Ouais. Voilà.
J'ai pas de mots.
À vous. Je pense que...
OK.
Je pense qu'on va finir là-dessus, wow. En fait. Parce que c'est juste trop beau.
Bravo, Émilie. Honnêtement, solide bravo.
Ouais.
Tu dois tellement être fière de toi, puis tellement être contente, puis être bien dans ta peau maintenant. Ça n'a aucun sens.
Mm.
Je suis tellement contente. Waouh, j'en reviens pas.
Mm. Et ça m'a tellement fait plaisir de lire ça, là.
Ben là.
Genre, j'ai lu ça dans le métro. Je me suis mis à pleurer dans le métro. Oh, non. Oh my God.
Oh mon Dieu.
Ouais.
Merci tellement, Émilie, d'avoir eu, ben, de un, le courage de faire ce que tu as fait, ouais. Et de deux, de nous avoir écrit pour nous le dire.
Oui.
Puis de trois, ton message d'encouragement pour les autres qui sont dans la même situation.
Vraiment, je trouvais ça comme vraiment important de le lire.
T'as 100% bien fait.
Alors voilà, je pense dans la description de l'épisode, je vais mettre des ressources pour femmes en situation de violence conjugale. Ou ben, hommes aussi, là. Ça existe aussi des hommes qui vivent de la violence conjugale.
Oui, c'est parce que là, c'est un cas de féminicide, ouais. C'est pour ça vraiment. Mm. Mais il y a quelqu'un qui nous a écrit par rapport aux ressources.
Ah ouais?
Par rapport à l'épisode de la Polytechnique. Elle nous a écrit par courriel. Elle dit, à la fin du deuxième épisode de Polytechnique, elle dit « Vous mentionnez que les féminicides sont malheureusement en hausse depuis 2021 et que des solutions doivent être mises en place. C'est la raison de mon message. Il existe une organisation au Québec qui lutte pour la protection des femmes victimes de violences. Cette organisation a pour but de soutenir les maisons d'hébergement qui accueillent les femmes en difficulté et qui font de la prévention dans leurs régions respectives. » La Fédération des maisons d'hébergement pour femmes explique bien leurs activités sur leur site Internet, mais accepte également des dons.
Mm.
Bon, ça va. Il existe également la ligne de crise SOS Violence conjugale qui contribue énormément à assurer la sécurité des femmes en situation de violence conjugale en les mettant directement en contact avec les maisons d'hébergement de leur région. Je sais que le sujet de l'émission traitait davantage des féminicides en général, mais malheureusement, la violence conjugale et les féminicides sont étroitement liés.
Mm-hmm.
Je vous remercie de parler de ces sujets difficiles et j'espère que votre visibilité fera en sorte de sensibiliser les auditeurs et auditrices de votre podcast. Voici les sites Internet des organisations dont je vous ai fait part si jamais vous souhaitez les divulguer. Donc, il y a la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes puis SOS Violence conjugale.
OK. Mais je vais les mettre dans la description de l'épisode. Ouais. Ouais.
C'est Sarah-Anne qui nous a écrit ça. Merci beaucoup.
Oui, merci Sarah-Anne.
C'est très, très pertinent.
Oui, vraiment.
On va mettre ça en lien, c'est sûr.
Oui.
Wow! Okay. C'est peut-être qu'un épisode, je m'attends. Ouais, qu'il y a de rebondissements.
Une chance, je t'ai fait prendre un café avant, là. Fallait que tu sois,
ouais,
que tu sois réveillée.
Je cognais des clous, mais je suis extrêmement réveillée. Merci encore, Émilie, pour ton témoignage. Mm. Merci, Hélène, pour cet épisode.
Ça fait plaisir.
C'est fou parce que sans choisir des cas nécessairement de féminicide, on en fait vraiment beaucoup.
Oui, ben oui.
Mais tu sais, c'est pas nécessairement genre « Ah, oh, je veux faire un cas de féminicide. Mm. » Des fois, on se dit « Ah, oh, je vais travailler sur un tel cas parce que ça fait longtemps qu'on a fait tel genre de cas. » Mais ça, c'est très récurrent, puis on y pense même pas, c'est juste qu'il y en a tellement.
Il y en a tellement.
C'est ridicule. On pourrait faire une année complète avec juste des féminicides.
Oui, oui. Mm.
Ça n'a pas de sens. Ouais, fait que, bref, continuez à nous écrire vos beaux témoignages, puis on espère que Crime... C'est fou parce que, tu sais, on le dit des fois, si ça peut toucher une seule personne, oui, puis Crime, c'est arrivé.
Ça, oui. Fait que, voilà, ça m'a encouragé d'en faire un autre.
Ben, Crime, moi, je nous donne une tape dans le dos, puis yes. Je me dis bravo.
Bravo.
On a le droit de s'encourager des fois.
Ben oui.
Bon, on bravo. S'encourage. Bravo, bravo Hélène. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Oui, passez beaucoup. Une belle semaine, puis on se revoit bientôt.
Bientôt.
Yes. Bye.
Bye.